Bonjour tout le monde, on est dans l'Ibisson de la Berre, la diversité, c'est aberrant, et on est là, et je vais vous présenter Océane. Il y a Laura, qui est notre coordinatrice pédagogique, il y a Youssouf,
bonjour,
qui nous fera l'honneur de poser les questions, et il y a Flavien à la technique. Alors, quelles sont les questions Youssouf ?
Alors bonjour, moi je vais vous parler, je vais vous poser des questions par rapport à la diversité du public qu'on trouve au sein des écoles. Et ma première question à vous poser, c'est quand on parle de diversité du public à l'école, à quoi cela vous fait référence ?
À quoi ça me fait référence ? J'ai côtoyé deux écoles secondaires, Saint-Julien-Parnasse et l'Institut de l'Enfant Jésus. Et en termes de diversité, pour moi c'était plus que correct. Il y avait de tous les profils. Il y avait autant de personnes qui habitaient en Belgique que de personnes qui y sont étrangers. Il y avait... Et du coup, ouais, globalement, c'est ça. Ça me fait référence à ça. Et pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il y ait autant de diversité. Parce que du coup, ça pousse à... ne serait-ce que l'échange des cultures, à l'ouverture d'esprit. Ce qui permet de mieux comprendre son prochain. Et en tant qu'humain, pour moi, c'est une valeur qui est fondamentale.
Et toi, Océane ?
Moi aussi, c'est au niveau des écoles. J'ai toujours été dans des écoles où la diversité elle était énorme. Genre, dans ma classe, je pense que j'étais vraiment une des seules blanches à chaque fois, que ça soit en secondaire ou en primaire, c'était une diversité et c'était bien pour la culture de chacun. Du coup, voilà.
Ma prochaine question, c'est que pensez-vous en fait de cette diversité du public dans les écoles ? Même si vous avez en partie répondu.
Je me répète un peu, mais pour moi, c'est vraiment une bonne chose. C'est quelque chose qu'il faut vraiment conserver. C'est quelque chose d'extrêmement important, quoi. Comme je l'ai dit, c'est une valeur fondamentale pour n'importe quel humain, qui est du coup se comprendre son prochain, la partage de culture et surtout l'ouverture d'esprit.
Je suis totalement d'accord avec lui. Enfin, il a dit les termes. Et vraiment, c'est l'ouverture d'esprit, apprendre de la culture des autres. Voilà.
J'allais vous poser une deuxième question, mais comme vous avez répondu, je pense que je vais déjà passer à la troisième. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette diversité du public dans les écoles ?
En ce qui me concerne, je trouve que dans les écoles, on ne peut pas doser le niveau de diversité. C'est juste que les élèves vont dans les écoles qui leur sont le plus accessibles. Et il me semble que les écoles ne sont pas contre la diversité de manière générale, que ce soit au niveau de l'ethnie, de la culture, du genre. En tout cas, dans les écoles que j'ai côtoyées, j'ai pas souvenir que c'était spécialement contre ça. Les élèves, quand ils viennent à l'école, ils peuvent être eux-mêmes. Et j'ai pas de souvenir de quand ça aurait pu poser problème, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à forcer. Ça se gère naturellement. On va dire ça comme ça.
Pour moi, c'est vraiment genre accepter autrui. Parce que c'est vrai que dans certaines écoles, par exemple, pour le port du voile ou des choses comme ça, c'est pas forcément accepté. Je trouve que pour la diversité, ça devrait l'être, même hors cadre de diversité. Du coup, voilà.
Ça va, merci.
Maintenant, on va poser certaines questions à Laura, comme j'ai déjà présenté la coordinatrice pédagogique, et on va lui poser certaines questions dans lesquelles elle nous fera l'honneur d'y répondre. Pour commencer, quel constat faites-vous de la diversité au sein des écoles aujourd'hui ?
Alors, j'ai trouvé vos réponses très intéressantes dans la perception que vous avez de la diversité. Parce que moi, je trouve que justement, il n'y en a pas du tout de la diversité dans les écoles. Je constate justement, à travers mes années d'expérience de facilitatrice école pour le service d'accrochage scolaire et pour la BER. Donc, mon rôle, c'est d'aller dans les écoles, de trouver des places pour les jeunes qui sont décrochés, de trouver l'école adéquate, l'option adéquate, géographiquement aussi, que ce soit adéquate pour eux. Et ce que je remarque, c'est qu'au contraire, il y a une très forte ghettoisation des écoles à Bruxelles qui reflète les inégalités socio-économiques de la ville. C'est-à-dire que on va trouver dans les quartiers plus riches, plus aisés, des écoles où justement il y aura plus de catégories socio-professionnelles aisées, blanches ou autres. Hein, bien sûr, c'est pas. Mais en tout cas, une forte concentration de gens qui ont les moyens de se payer, ben c'est surtout un logement. Les parents peuvent se payer un logement dans certaines régions, dans certaines communes de Bruxelles. Et puis, dans d'autres, justement, une concentration de personnes issues de deuxième, troisième, première génération d'immigrés. Et Océane, toi, tu l'as bien dit, il y a une proportion de blancs très faible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette ghettoisation reflète la ghettoisation de Bruxelles. Et c'est en ça que je pense qu'il n'y a pas du tout, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas très peu de diversité dans les écoles, et que c'est un gros problème. Parce que ce que vous avez dit, en revanche, est tout à fait vrai, c'est important. La diversité, c'est important pour la compréhension de l'autre, la connaissance de l'autre. Mais malheureusement, ce que ça reflète pour les personnes qui sont dans des écoles où il y a une forte concentration de personnes qui sont issues de l'immigration, c'est qu'ils sont dans l'entre-soi. Et que justement, ça renforce cette ghettoisation.
Bah, je vous entends. Excuse-moi, je me permets de poser une question. Je vous entends parler de la ghettoisation, qui du coup j'ai du mal à mettre le point dessus, mais concrètement, ça signifie quoi ?
Ça veut dire qu'en fait, en fonction des réalités sociales et économiques, donc ton niveau de vie, tu vas habiter à des endroits ou à d'autres plus ou moins accessibles par rapport à tes propres finances, quoi. Donc, si t'as un bon boulot et que tu gagnes beaucoup de sous, tu as proportionnellement plus de chances de t'installer dans des communes où le logement est plus cher. Donc, les enfants de ces gens-là vont se retrouver dans les écoles qui sont dans ces endroits-là. Ce qui se passe depuis... Alors là, il y a une réforme, donc justement pour imposer un petit peu ce décret paysage, pour imposer à chacun de rester dans les écoles de sa commune. Avant, ce qui se passait aussi, c'est qu'il y avait des gens qui louaient exprès des logements auprès d'écoles qu'ils voulaient avoir pour inscrire leurs enfants là. Mais... Donc, tu te rends compte, c'est-à-dire que tu habites à un endroit, tu loues un studio quelque part pour déclarer dans une commune que tu habites là pour pouvoir atteindre l'école pour ton enfant. Donc, la ghettoisation, c'est vraiment ce processus où les gens d'une même catégorie sociale et professionnelle et même culturelle se retrouvent concentrés dans des zones de la ville. Il y a eu un super travail qui a été fait par l'ULB. Sur une cartographie de Bruxelles. Et surtout, là, ils ont interrogé des jeunes qui ont cartographié Bruxelles mentalement, de zones et de communes différentes. Et c'est assez impressionnant de voir qu'en fait, il n'y a aucun contact, quasiment, entre les jeunes du sud de Bruxelles, on va dire, et ceux du nord, du croissant autour de... ce qu'on appelle le croissant pauvre, donc Molenbeek, Anderlecht, Laeken, avec une étude intéressante sur la mobilité des jeunes de part et d'autre, hein, qui n'arrivaient pas à avoir une carte mentale de Bruxelles comme elle existe vraiment, la région, hein, mais une carte mentale par rapport à leur propre environnement.
Et du coup, tous ces... Mais c'est-à-dire qu'il y a des parties, par exemple, du coup, on en parle le nord de Bruxelles, où vraiment, c'est très peu diversifié, parce que les personnes dans les dites communes en question restent que dans leur commune à elles, si je comprends bien.
Alors, oui, il y a aussi d'autres études qui ont montré que il y en a qui bougent, mais reste que il y a aussi un effet... ce qu'on appelle... je vais retrouver le mot.
En fait,
le problème, c'est que l'échec scolaire, je mets l'échec scolaire entre guillemets, hein, parce qu'il y a différents points de vue par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a un effet qu'on appelle, et surtout ici à Bruxelles, c'est l'effet de relégation. C'est-à-dire que dès que tu réussis pas super bien en général... On va te proposer d'aller en technique et en professionnel. Or, on retrouve dans les sections techniques et professionnelles justement des personnes qui ont eu des difficultés avec l'école, que ce soit parce que à la maison on parle pas forcément français, ou juste parce que au niveau ce qu'on appelle de toutes les chances de richesse, que ce soit culturelle ou économique, tout le monde n'a pas les mêmes, et donc ton rapport avec l'école va être différent. Et toutes les études montrent que plus tu es d'une catégorie socio-professionnelle élevée, plus tu as des chances de réussir à l'école pour la même intelligence que quelqu'un est dans des circonstances plus défavorisées, ou qui, culturellement, socialement, n'a pas les mêmes références aussi, parce que l'école impose des codes, impose d'une manière de voir le monde qui est parfois confrontant par rapport à ce qu'on vit au sein des familles. Et alors, ce qu'on remarque, c'est donc cet effet de relégation. Donc, on voit très fort à Bruxelles, un petit peu moins en Wallonie, parce qu'en Wallonie, un peu la culture du professionnel de la terre, de travailler avec les mains, un peu plus. Donc, les sections techniques et professionnelles sont moins dévalorisées. Mais à Bruxelles, il y a vraiment cet effet de relégation. C'est-à-dire, tu ne réussis pas en général, tu es en professionnel ou en technique, et donc, tu te retrouves dans des écoles où tu as une concentration de jeunes qui sont, encore une fois, entre guillemets, en échec scolaire et qui se retrouvent en technique et professionnelle. C'est-à-dire que même quand on sort des quartiers et qu'on va s'inscrire dans une autre école parce que papa, maman travaillent à l'autre bout de la ville, on se retrouve quand même dans des écoles où il y a une concentration de jeunes
Cette même sociologie,
qui ont ces mêmes problématiques. Et donc on va retrouver cette ghettoisation aussi, même s'il y a des mouvements. Maintenant, il y a un nouveau décret, ça s'appelle le décret paysage, qui va plus ou moins forcer les gens à inscrire leurs enfants dans les quartiers. C'est censé lutter contre la non-diversité des écoles, mais en fait, de mon point de vue, ça va pas
changer grand chose
en fait, puisque les quartiers sont déjà eux-mêmes organisés autour de, on va dire, le niveau socio-économique.
Mais c'est un constat qui est triste, que j'avais jamais entendu parler. Mais du coup, quelque part, les problèmes socio-économiques que peuvent avoir certaines familles tuent la scolarité de leurs enfants.
C'est une évidence.
Et avec elle, la diversité qu'il aurait pu y avoir.
Complètement.
Parce que du coup, ces problèmes de relégation qui est censé toucher le parcours de l'enfant touche littéralement son côté, les autres problèmes auxquels l'école ne peut avoir difficilement de l'impact. Vous avez sorti l'exemple de ça ne parle pas forcément la même langue que l'école en question, ce qui du coup touche évidemment ce que la famille peut avoir pour pouvoir aider l'enfant.
Bien sûr.
Il y a aussi le côté, comme vous l'avez dit aussi, l'école a un point de vue que peut être très confrontant par rapport à l'enfant, ce qui pourrait l'empêcher de bien suivre les cours. C'est des constats qui ne touchent pas du coup l'intellect de l'enfant
non,
en lui-même.
Pas du tout.
Et du coup, ça.
Il y a le bagage culturel évidemment et social, le réseau qui est aussi très important, donc qui fait que tu vas avoir de l'aide par quelqu'un ou des cours privés pour t'aider. Et puis surtout aussi une infrastructure matérielle, un bureau, une chambre à part, faire tes devoirs tranquillement, voilà. C'est pas pareil que d'être dans un petit appartement où on partage sa chambre avec trois autres frères et sœurs et qu'on n'a pas d'endroit pour travailler. En fait, chaque élément peut être déterminant par rapport à sa réussite scolaire. Et le problème, c'est que l'école n'éponge pas ces inégalités. Elle est censée le faire, c'est son rôle quand elle a été créée. C'est d'éponger, d'équilibrer les inégalités entre les individus qui forment une société. Malheureusement, elle ne le fait pas. Elle va même jusqu'à les empirer.
Ouais.
Ça, c'est mon point de vue.
Parce qu'on parle de
ce n'est pas que mon point de vue, c'est aussi évidemment toutes les études qui ont été sorties sur cette question. Et si j'en sais pas mal là-dessus, c'est parce que j'ai travaillé sur cette question et que j'ai partagé tous ces constats dans un colloque sur la violence institutionnelle et les effets sur la santé sur les individus, où j'ai pu échanger aussi avec des médecins, des professionnels de la santé, des avocats, etc., sur toutes les violences institutionnelles de notre société. Et je venais parler de l'école, mais il y en a qui venaient parler d'autres choses, des prisons, des hôpitaux, des lieux où on demande l'asile, etc., etc. Et en fait, cette... cette ghettoisation, on va dire, ce renforcement des inégalités, ça fait partie de ce qu'on appelle une violence systémique, c'est une violence du système en tant que telle sur les individus, sur leurs différences et sur la capacité à les intégrer.
Purée, du coup, l'école, par l'excuse de la pauvreté socio-économique que peuvent avoir certains élèves, se permet de tuer la diversité ?
Non, l'école, pour moi, est plutôt le reflet des choix politiques qui sont faits au niveau de nos politiques, des représentants politiques et de l'investissement qu'on en y met. Je pense qu'une des solutions premières, c'est plus d'humains dans l'école, donc, plus d'encadrants, toi qui veux être éduque, par exemple, plus d'éduques, plus de profs, plus d'accompagnement, valorisation des filières techniques et professionnelles, éviter d'avoir des écoles dites poubelles et des écoles d'élite, valoriser autre chose que la réussite purement intellectuelle et surtout en fait de culturelle, culture générale on va dire, mais valoriser d'autres choses, le travail manuel, pratique, sportif, artistique, et valoriser les talents de chaque élève, et de prendre aussi les jeunes dans leur globalité avec leurs problématiques. Et ça, l'école n'a pas le temps parce que les profs sont sous pression. Mmh. En fait, ce n'est pas l'école en soi, c'est l'école comme miroir de ce que les politiques ont décidé de faire, ou en tout cas de ne pas faire dans notre société. Et attends, je voudrais entendre Océane aussi.
Oui. Bah du coup...
La prochaine question, c'est comment cette diversité impacte-t-elle, je pense, c'est l'expérience éducative des élèves.
Je sais pas si c'est... C'est justement le fait justement de se rendre compte qu'on n'est pas... que ce n'est pas diversifié. Alors, certains vont se rendre compte plus fort que d'autres. Je pense que les élèves en filière professionnelle qui se retrouvent dans des écoles qui n'y a pas de prof, ou un jour sur deux, voire trois jours sur cinq, donc il n'y a pas cours, qu'il n'y a pas d'encadrement, et qu'on se retrouve tous à peu près de la même origine, etc., on se rend quand même bien compte qu'il n'y a pas de diversité et qu'il n'y a pas de valorisation. Et que, donc ça impacte énormément sur l'image qu'on a de soi et ce que la société renvoie comme image de soi. En revanche, je pense, mais ça c'est des présuppositions, on va dire, des hypothèses qu'on peut se poser, c'est moins évident dans certaines écoles, on va dire, dans des quartiers qui sont assez homogènes au niveau social et économique, et les quartiers un peu plus riches, de se rendre compte qu'il y a peu de diversité, parce que la diversité, elle va peut-être passer que par la couleur de peau, par exemple, mais ça veut rien dire. Ça veut dire qu'il y a quand même... C'est la question de la... Oui, c'est la question de ce qu'on est capable de payer, encore une fois, dans quelle commune, dans quel logement. C'est surtout les ressources en fait, économiques qui sont importantes. Mais cette prise de conscience de la non-diversité, je ne sais pas, je pose une hypothèse, je n'ai pas la réponse de ça. Je ne suis pas sûre qu'elle soit aussi claire dans la tête des jeunes qui sont dans des écoles dites élitistes ou plus élitistes. Et surtout dans les écoles européennes où il y a une très grande diversité d'origine, mais ils sont tous avec une situation économique très favorisée, puisque la plupart sont inscrits... parce qu'il faut savoir qu'à Bruxelles, on a les écoles à problème, poubelle, et à côté, on a aussi des écoles d'élite comme les écoles internationales.
Ouais, mais par exemple, j'avais deux copines, leurs parents travaillaient au Parlement européen ou des trucs comme ça, et elles étaient dans une école exprès pour ça.
Voilà, exactement. C'est ça.
Tous les enfants de parents qui travaillent dans le système Était dans cette école.
Oui, parce que c'est une école vraiment, très chère, impayable si tu ne travailles pas dans les institutions urbaines. Et donc, en plus, il n'y a pas de place. Donc, même si tu avais l'argent, ce n'est pas toujours facile. C'est vraiment un réseau très fermé.
Mm-hmm. Ok.
Mais du coup, le problème, c'est vraiment... Enfin, j'ai une troisième question, je vais la poser juste après. Mais du coup, le problème, c'est vraiment le côté socio-économique qui est du coup plus ou moins favorisé par les décisions politiques qui se reflètent du coup dans le domaine public avec l'école par exemple. Mais du coup, vraiment, c'est une ghettoisation, c'est ça, hein?
Ghettoisation.
Ghettoisation qui encourage. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de manière générale pour éviter cette ghettoisation de l'éviter en fait, tout simplement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en place?
Pour moi, c'est plus à un niveau global qu'il faut réfléchir, parce que il faut savoir que nos sociétés sont coincées dans un système économique qui les dépasse, pour beaucoup. C'est-à-dire que depuis les années 70, on a décidé que les États étaient des produits commerciaux comme Coca, Mars et qui sont sur des marchés boursiers. Donc, ce qui veut dire que, en fait, concrètement, ce que ça veut dire, c'est dire que nos politiques n'ont pas vraiment le choix sur l'argent qu'on dépense ou pas dans certains domaines de la vie d'une société, quoi. Parce que si on prend une décision politique, par exemple, de réinvestir, on va dire, dans les hôpitaux ou dans les écoles, c'est des dépenses. Et c'est des dépenses que les marchés peuvent dire « Ah non, ça, tu peux pas faire, baisser ta cote sur un marché et alors empêcher l'État de pouvoir emprunter. » Donc, c'est un cercle vicieux comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, d'abord, c'est déjà d'essayer de comprendre comment fonctionne notre société. D'essayer de porter en fait une vision différente de ce que c'est l'éducation, ce que c'est la santé. Ce n'est pas des dépenses, mais c'est de l'investissement. C'est la base pour une société qui soit justement plus juste, plus égalitaire, plus équilibrée. Et de se positionner là-dessus et de défendre ses valeurs et essayer de trouver des personnes à niveau politique puissent défendre ces valeurs-là. C'est pas toujours évident, parce qu'en fait, c'est tout un système qu'il faut remettre en question. C'est pas impossible de le remettre en question, puisqu'il a été... Avant, ça ne se passait pas forcément comme ça. Et après, ça peut aussi changer. Donc, je suis pas dans le déterminisme et dans le défaitisme.
Oh, j'ai l'impression qu'on est baisé, hein, mais...
mais... Non, moi, je pense qu'il faut juste s'intéresser, prendre conscience... se renseigner et se positionner. Et c'est important que les jeunes se positionnent là-dessus et montent leur voix et se font entendre sur ces questions-là. Parce que c'est une réalité, et c'est une réalité qui si on la laisse dans cette... si on laisse les choses se faire comme ça encore, sans réagir, ça va faire que... Il faut savoir qu'en Hollande, on a déjà acté les écoles de noirs, les écoles de blancs. C'est vraiment comme ça. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place, à cause justement des faits de quartier, à cause de concentration de population dans des poches de la ville, etc. Sauf que c'est assumé comme ça, mais ce n'est pas normal.
C'est un
énorme problème. Et justement, ça va enfreindre ce que vous avez dit au tout début, c'est-à-dire l'importance de se connaître, pas seulement dans la diversité culturelle, mais aussi dans la diversité sociale et économique. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes conditions de vie. Et tout le monde n'a pas la même manière de voir le monde. Et tout le monde n'a pas la même manière de vivre, tout simplement.
Ouais, les mêmes codes. Ouais, non, je pensais pas que c'était aussi... que le problème était aussi en profondeur, en fait. Ça que j'ouvre les yeux là-dessus, qui j'ai l'impression d'être complètement dépassé par ça, c'est vraiment à notre niveau, on peut pas faire grand-chose si ce n'est faire confiance à des décisions politiques qui pourraient jouer en cette faveur, qui du coup juste aider les jeunes à avoir les mêmes codes, les mêmes chances que tout le monde pour qu'ils puissent être ce qu'ils veulent. Et le problème, c'est que ces mêmes politiciens ont leurs propres enfants dans des écoles que personne ne peut se payer à part eux-mêmes. Et du coup, on attend une révélation socio-économique d'eux, alors qu'ils ne sont pas du tout dedans, quoi. On est un peu baisés. Je te laisse poser la question.
Parce que du coup,
Désolée.
Tu l'as posée, quoi.
Oui, je sais.
Ok, donc en quoi l'éducation à la diversité pourrait-elle être intégrée de nouveau efficace dans le programme scolaire ?
Bah, ça, c'est quelque chose qu'il faut de toute façon mettre en place, ça, évidemment. Maintenant, l'éducation, c'est bien, mais si dans les faits, on se retrouve dans l'entre-soi, bon, ça... C'est toujours intéressant d'avoir une prise de conscience. C'est ce que je viens de dire tantôt. C'est toujours intéressant d'avoir une prise de conscience et de pouvoir se positionner. Surtout que là, maintenant, bientôt, il va y avoir des élections. Pour certaines élections, vous pouvez commencer à voter à 16 ans. Donc, peut-être se renseigner. Après, je ne sais pas si s'ils ont tous la solution ou pas. Mais ça peut aussi être pire. Donc, voilà.
On va prendre le mot pire.
Maintenant, ce que je raconte, c'est toutes des études qui ont été faites et qui reflètent. Et ce qui est intéressant, je trouvais très intéressant dans votre propos de départ, c'est que vous aviez cette vision de la diversité en tant que juste... vous étiez dans des écoles où, justement, il y avait beaucoup de diversité, mais sans prendre conscience que c'est pas forcément... Il y a des écoles où il y a, justement, pas cette diversité.
Hucle, par exemple, vu que c'est un quartier plus... où ça coûte plus cher.
Plus aisé.
En fait, ça dépend ce qu'on met derrière diversité. Est-ce qu'on met diversité culturelle ou est-ce qu'on met la diversité sociale, économique ? Alors là, si on met la diversité sociale, économique, on est loin du compte. Et culturelle, ça dépend où on se place et où est-ce qu'on est.
Comment les enseignants peuvent-ils être mieux préparés à répondre aux besoins des élèves issus de milieux divers ? C'est vrai que les professeurs, ils sont conscients de ce problème socio-économique ?
Oui, bien sûr.
Évidemment.
Ils savent très bien dans quelle école ils mettent les pieds et ils savent très bien dans quelle école ils n'ont pas envie de mettre les pieds aussi, pour certains. Il y en a qui ont envie de mettre les pieds dans ces écoles-là en voulant faire des choses, des choses positives. Donc, oui. Et puis, quand tu fais des études, moi, j'ai fait de l'agrégation. C'est la première chose qu'on nous apprend, en fait. C'est de dire, il y a un souci...
socio-économique qui régit toutes les écoles à Bruxelles.
Moi, je pense que les profs, ce qu'il faut, c'est plus de profs et plus d'éducs, plus d'encadrement. Mm-hmm. En fait, ce qu'on a remarqué, et ce qu'on remarque à l'échelle des SAS, par exemple, c'est que la prise en charge, toi, tu l'as vu, la prise en charge, quand on est en petit groupe avec beaucoup d'éducs, on peut pallier à toute situation. On peut mettre ensemble dans un groupe des harceleurs, des harcelés, des gens qui ont des phobies scolaires, d'autres qui ont peur du groupe de pères, quoi, de ses pères. Parce que l'accompagnement, la prise en compte dans la globalité, le fait de prendre conscience des problématiques de chacun, d'accompagner le groupe dans son fonctionnement, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Alors, ça met du temps, ça demande de l'investissement, entre guillemets, parce que il faut des gens pour encadrer. Il y a aussi beaucoup d'élèves qui ont des besoins spécifiques, que ce soit parce qu'ils ne parlent pas français à la maison, ou parce qu'il y a des troubles, ou parce qu'il y a des troubles qui ne sont pas pris en charge, ou parce que, tout simplement, ils ont des situations sociales et économiques telles que ils ne dorment pas, ils ne mangent pas à leur faim. Enfin, toutes ces problématiques-là, il faut pouvoir les prendre en compte, il faut pouvoir les accompagner, il faut pouvoir pour que l'intégration à l'école se passe bien. Et pour ça, il faut des gens. Et là, il faut une formation, certainement un petit peu, mais je pense que les profs sont conscients, sont formés, et je pense aussi que les gens qui veulent être profs, en général, ils ont quand même une envie de faire quelque chose, de transmettre. Donc ça part déjà. Ils partent déjà avec l'envie
d'une bonne foi,
de travailler dans un secteur où ils savent que c'est un secteur social, ils seront en contact avec des jeunes, etc. Donc, je pense que ce qu'ils ont besoin surtout, c'est d'être plus et d'être plus reconnus. Et d'avoir de l'accompagnement méthodologique, etc. Et quand on parle de pénurie de profs aujourd'hui, la situation est catastrophique. Catastrophique dans certaines écoles. Toi-même, tu l'as vu. Elle n'avait pas de cours de maths pendant des mois. Elle n'a jamais vu son prof de néerlandais.
Bah pareil.
Voilà.
Sur mes 6 ans en école secondaire, j'ai eu 2 ans, j'ai un professeur de néerlandais.
Et ben voilà. Et après, on se plaint du niveau de néerlandais des jeunes francophones. Mais voilà le problème. Ben pourquoi ? Parce que c'est une situation qui est de moins en moins reconnue. C'est difficile de travailler dans certaines écoles. C'est difficile quand on est prof dans des sections qui ne sont pas valorisées. C'est le cercle vicieux de la dévalorisation, de la relégation aussi. Et donc, dans certaines options, il y a un manque de profs criant, mais vraiment grave. Donc moi, ce qu'il faut, pas aux profs, c'est surtout il faut des profs. Il faut valoriser la profession. Et surtout, le considérer que ce n'est pas un coût pour la société, l'enseignement, c'est fondamental. C'est ce qui empêche l'obscurantisme, on va dire, à tout point de vue, que ce soit politique, que ce soit tout, de lutter contre les extrêmes, de lutter contre la discrimination. L'enseignement, c'est ce qui fait que c'est pour lutter justement contre toutes les inégalités. Donc, ce n'est pas un coût, c'est comme la santé, c'est un investissement dans le futur. Ça ne doit pas être un poids.
Ah oui, en fait, c'est vraiment cette prise de conscience que malgré le petit pourcentage, enfin petit avec des grosses guillemets, le petit pourcentage que peuvent être ces élèves dans cette société, ils représentent les 100% de demain, en fait. Et c'est...
Tout à fait.
Et c'est ça qu'il faut en avoir conscience. On n'est pas trop baisés, ça va, en vrai. Mais...
Ouais, heureusement, non, pas. Heureusement, il existe beaucoup de choses, des structures, des choses qui sont mises en place.
Ah, surtout l'ABER. Moi, l'ABER, c'est
oui,
vraiment...
Oui, mais nous, on aimerait bien, en tant que SAS, en fait, l'idéal, ce serait qu'on n'existe pas, qu'on n'ait pas à exister. Que l'école fasse son travail. Donc c'est un peu paradoxal. Si l'argent devrait être mis sur la table, ce n'est pas pour nous que ça devrait être orienté. C'est plus pour...
les écoles en eux-mêmes.
Les écoles, et se dire que voilà, on le sort de la dette de l'État et que ce n'est plus une dette, que c'est quelque chose
nécessaire,
indispensable pour la santé économique et sociale et écologique aussi de pays, quoi.
Ouais, je l'entends. Je pense pas qu'on ait d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions sur la diversité, c'est aberrant. Du coup, je fais la fin, du coup. Voilà. Mais du coup, c'est la fin de l'émission. On vous souhaite une agréable journée et dormez bien.